Bonjour à tous et bienvenue dans le magazine de France Musique. C'est notre deuxième spécial depuis Aix-en-Provence et son festival 2014. On est ravis de se retrouver ici dans la cour de l'hôtel Meynier d'Oppède en public. L'émission, je vous le dis, a été enregistrée hier à 18h. Là, vous l'entendez à les midi 35, un truc comme ça. Il s'est passé beaucoup de choses hier soir. Il va s'en passer pour nous dès à présent puisque nous avons réuni énormément d'artistes pour cette émission. Damien Passe, Joseph Wagner, Edwige Herschenlohrer qui sera au piano. J'essaierai de prononcer son nom correctement un peu plus tard, le trio des musiciens du Louvre, le Quatuor Tana, et puis plein d'invités qui viendront nous parler des spectacles du festival, Olga Peretiatko, Andrea Marcon, Alain Pérou et Benjamin Dupé. Mais pour commencer, eh bien, c'est une basse qui nous chante Papageno, et de quelle manière ? Merci d'applaudir Joseph Wagner. Nous entendions Joseph Wagner accompagné au piano par Edwige Herschenlohrer qui nous interprétait cet air célèbre de Papageno, extrait de la flûte enchantée de Mozart qu'on peut voir donc depuis hier soir ici même à Aix-en-Provence. Bonsoir Joseph Wagner.
Bonjour.
Bonjour, c'est Ben qui traduit pour vous ce soir, et qui traduit surtout pour nos auditeurs, parce que vous ne parlez pas encore français, vous êtes autrichien, c'est ça ?
From Austria. Yes, I'm from Austria, I'm from... The country of Mozart, the town of Mozart from Vienna.
Je viens de la ville de Motad, à côté de Vienne, en Autriche.
D'accord, donc une ville très mozartienne, en fait, hein, c'est ça, hein, vous êtes...
Yes. Mozart is a big part in my repertoire.
Ah ouais. Et d'ailleurs, Mozart est une grande partie de mon répertoire.
Vous avez quel âge aujourd'hui, Joseph?
That's a very intimate question. I'm 39.
C'est une question extrêmement intimidante, mais j'ai 39 ans.
Parce que ça fait peu de temps qu'on vous voit et on a une voix qui... Vous avez une voix qui est une voix de basse, mais qui est d'une fraîcheur incroyable.
Oh, thank you. I take this as a compliment. Yes, I mean we try to sound fresh and young as long as we can.
Je vous remercie. Je le prends pour un compliment et on va essayer de rester frais et jeune
le plus longtemps possible. Walter Berry, Christa Ludwig font partie de vos professeurs. C'est pas les seuls, mais enfin c'est des noms qu'on retient, qui sont des noms très importants pour le chant et pour le chant allemand en particulier. Ils restent importants pour vous, ces noms-là?
Oh yes, it was a very important experience for me. I was very young. I was like, I don't know, 25 or something when I met Walter Berry, and I did a masterclass with him and to work with him, with this experienced, especially Mozart singer as well, was very nice experience for me, and he gave me a lot to that I can feed from still now.
Ça a été une expérience extrêmement importante pour moi qui m'a nourri depuis le début. J'ai commencé par une masterclass avec Walter Berry et qui continue encore aujourd'hui à construire ma carrière et mon répertoire.
Ouais. Papageno, c'est un rôle incroyable, il y a beaucoup de choses à en faire. C'est un rôle très drôle aussi, hein.
To do Papageno. Oh, this is very funny also. Oh yes, yeah, it's one of my favorite roles to do, and I'm very happy to do it here in Aix.
C'est un de mes rôles favoris. Je suis absolument ravi de pouvoir le jouer à Aix-en-Provence.
It's great fun to do it. It's very, you have to be very agile and it's very vivant.
C'est très amusant et il m'est demandé d'être extrêmement agile et vivant.
Ouais, parce que c'est une mise en scène très théâtrale, hein, qui demande beaucoup des acteurs. On va vous remercier, Joseph Wagner. Je signale tout de même que vous êtes deux Papageno dans cette production, hein, avec Thomas Hollymount. Il faut donc vérifier si on a envie de vous entendre, dans quelle soirée vous jouerez. Je vais vous laisser repartir parce qu'il y a du travail encore sur la flûte enchantée. Et à vos côtés, Andrea Marcon. Bonjour.
Bonjour.
Est-ce que c'est une première pour vous, Aix-en-Provence?
C'est la première fois, oui.
Ah, c'est ça, la première fois que vous dirigez dans Ariodante, donc de Handel, qu'on pourra voir ce soir pour la première, oui, ce soir, je dis bien, sur la mise en scène de Richard Jones, avec un quatuor de femmes de choc. On va reparler de ça, Andrea Marcon, mais auparavant, peut-être, oui, sur ce quatuor de femmes, Sarah Connolly, Patricia Petitbon, Sandrine Pio, Sonia Prina, on fait de la belle bête, hein.
Oui. Je suis très content, oui.
Vous les avez choisis d'ailleurs? Est-ce que vous avez participé au cast?
C'est ici à Aix, grâce à la sagesse, je voudrais dire, de le directeur artistique, il est aussi un grand musicien, et aussi grâce à Alain, il a la possibilité de partager certaines, de se confronter sur les idées du soliste, et ça, je pense, c'est vraiment très important pour le directeur musical. Maintenant, dans les théâtres, ça passe souvent le contraire, c'est seulement le directeur de la scène qui est demandé, même pas, on n'écoute pas ce que pense le directeur musical. C'est pas un problème de le directeur musical qui chante.
Ah, c'est d'autres personnes qui choisissent.
Et pour moi,
vous,
c'est un problème parce que oui, ça dépend qui chante. Si j'accepte ou si j'accepte pas, donc je veux le savoir avant que j'accepte de faire en production. Et ici, ça part tout très très. On a commencé à parler de ce projet, ça fait 3 ans, je pense. Et donc on s'est confronté, on a partagé beaucoup d'idées. C'est pour ça peut-être aussi que je connais très bien. Donc
c'est pour ça peut-être, André Marcon, vous faites assez peu d'opéra. Vous n'aimez pas qu'on vous impose trop de choses.
Moi, j'ai fait maximum 2 opéras chaque année. Ouais. Mais normalement, c'est 1 opéra par an.
C'est très physique. Ariodante, c'est 3-4 heures quand même. Il faut,
si,
faut
c'est
tenir.
C'est 3h10 de musique pure, plus les pauses. Donc c'est en production que ça dure environ 4h10.
En arrivant dans la fosse du Théâtre de l'Archevêché, est-ce que vous avez été surpris de l'acoustique?
Bon, c'est la première. Non, ce n'est pas la première, mais en tout cas, c'est pour faire un large opéra comme Ariodante, si, c'est la première fois que je le fais en plein air. Et je devais dire que l'endroit, c'est extraordinaire quand même. Donc, c'est difficile de aussi la coordination entre l'orchestre et le théâtre, la scène, la scène, c'est pour le directeur, c'est pas facile aussi. L'orchestre, c'est très allongé.
C'est ça.
Et tout est très droit. Et, bon, mais l'endroit, c'est tellement fantastique. Et l'acoustique, c'est aussi vraiment pas mal du tout. C'est un bon acoustique pour être en plein air. Et ça donne une atmosphère déjà avant d'écouter une note ou d'avoir vu la mise en scène, c'est déjà, on est déjà dans le théâtre.
Oui.
Parce que ça dépend de la lumière de la soirée. C'est la, c'est très particulier. Je suis très content. Et c'est vrai aussi que les représentations, faire des concerts plein air dans les périodes baroques, ça, c'était beaucoup plus souvent que ce qu'on fait aujourd'hui.
Ah oui?
Oui, spécialement à Venise, par exemple. Mais pas seulement à Venise, à Rome, en Italie. Bon, dans les pays du sud d'Europe, c'était normal. Et ça, on a un peu perdu, ça. Et donc, je suis aussi pour ça, je suis très content d'avoir cette expérience en plein air avec Ariodante.
Ariodante est donc dirigé par vous, Andrea Marcone, avec entre autres, je le signale, Patricia Petitbon aussi, je le redis, parce que quelqu'un avec qui vous avez beaucoup travaillé déjà par le passé, pour deux disques au moins.
Oui, j'ai travaillé beaucoup avec Patricia, j'ai travaillé beaucoup avec Sonia Perina, j'ai fait déjà des concerts avant de cette Ariodante avec. Naturellement, Sandrine Pio. Donc, j'ai travaillé avec Luca Titotto, le roi. Ouais. Et c'est pour moi, c'est très important. Il y a déjà comme des complicités musicales que les solistes peuvent savoir que ce que normalement je veux dans cette musique. Et pour moi, le même, je peux m'imaginer comme les différents rôles peuvent être joués pour des solistes que j'admire beaucoup. Et donc, ça, c'est déjà un travail qui commence avant du travail ici à Aix. Parce que, justement, je peux imaginer, pour la coloratura et toutes les variations, je connais déjà les voix. Et donc, ça aide beaucoup aussi mon travail.
Merci, Andrea Marcone. Vous présentez pour la suite de notre programme trois musiciens qui nous viennent d'un orchestre qui est aussi présent à Aix en Provence cette année. C'est pour le Turc en Italie. Les musiciens du Louvre, j'ai nommé Thibaut Noali qui est au violon, Nicolas Mazzoleni qui est à l'alto et Frédéric Baldassare qui est lui au violoncelle. Ils vont nous interpréter, alors là aussi ça s'y prête à l'extérieur, un divertimento de Mozart, enfin un extrait du grand divertimento Köchel 563.
Thank you.
Merci au trio des musiciens du Louvre. J'ai nommé au violoncelle Frédéric Baldassare, à l'alto Nicolas Mazzoleni et puis au violon Thibaut Noali qui vient me rejoindre à la table. Bonsoir Thibaut.
Bonsoir.
Vous nous avez interprété là cet extrait du grand Divertimento en mi bémol de Mozart. C'est incroyable ce mouvement. Il y a 7 minutes de musique. Ça commence par un unisson très simple. Ça finit dans un contrepoint complètement fou.
Oui, c'est le plus extravagant, je crois, de tous les mouvements en fait.
Ah ouais.
Dans la forme et dans le développement.
On est là dans le tout dernier Mozart que vous jouiez. Une musique, je vous disais tout à l'heure, de plein air, parce que les divertimenti, normalement, sont une musique de plein air.
Très souvent, chez Mozart, oui.
C'est ça. Hein, voilà.
Alors, cette pièce-là, on n'est pas forcément sûr qu'elle a été jouée en plein air, mais la plupart des divertimenti, oui.
L'idée, en tout cas, est bien celle-là. Donc, on est cohérent aussi avec les cigales, avec le vent, avec les avions, avec tout ce qu'on veut. Quoi. Bon. Les musiciens du Louvre avec leur trio, vous êtes constitués tous les trois, donc vous êtes les têtes de pupitre.
Voilà, Nicolas est d'abord violoniste avant d'être altiste, donc il est chef d'attaque des seconds violons, ouais. Et Frédéric qui est le chef d'attaque des violoncelles.
D'accord. Et il joue aussi un autre instrument, non ?
Il joue la viole, je crois.
Ah ouais, d'accord, aussi, c'est ça. Mais c'est un douche, j'ai l'impression qu'il y en a pas mal qui sont un peu polyinstrumentistes, ouais. Non ? Ou qui, en tout cas, s'amusent bien avec ce genre de choses. Est-ce que vous devez faire, d'ailleurs, dans le Turc en Italie, est-ce que vous avez des problèmes instrumentaux, des questions instrumentales particulières ?
Non, en fait. Tout le monde est au poste qu'il a d'habitude.
D'accord, c'est ça. On est tranquille de ce point de vue-là.
Il n'y a pas de surprise.
Ouais. C'est la première fois, je crois, que les musiciens du Louvre font un Rossini. Hein.
Oui, je crois que c'est le premier opéra complet de Rossini pour les musiciens du Louvre. En tout cas, ce n'est pas le premier Rossini de Marc Minkowski, mais il avait enregistré L'Inganno Felice, mais qui n'était pas sous le nom des musiciens du Louvre. Et là, c'est la première fois qu'on fait un opéra en intégralité.
Et alors, impression ?
Alors, d'abord, c'est un opéra que personne ne connaît très bien, en fait, même chez les musiciens. Donc ça n'a rien à voir avec Le Barbier ou la Cenerentola ou ce genre d'opéra. Donc c'est un peu une surprise déjà musicale, parce que c'est une œuvre qui, je trouve, à la comparaison d'autres opéras bouffa de Rossini, n'est pas que sur le même registre. Il y a aussi un registre très sérieux et très dramatique aussi.
Il y a du grand comique et du burlesque.
Voilà, il y a à la fois du grand comique et la limite du drame.
Ouais,
exactement.
Ah ouais.
Surtout vers la fin, oui. La musique devient presque le grand air de Fiorilla à la fin, c'est presque bellinien. Quoi.
Absolument.
C'est...
Ouais, et du coup, ça vous donne des capacités d'expression.
Exactement. Exactement. Alors, c'est une partition qui est très difficile pour l'orchestre, très virtuose, non seulement pour les cordes, mais surtout pour les vents, qui sont extrêmement exposés, qui ont des, à la fois techniquement et même musicalement, c'est très, à la fois dans la légèreté, la virtuosité.
C'est très délicat aussi, nous ne le répéterons jamais assez
très délicat,
pour l'orchestre.
Ouais. Hein. Vraiment, vraiment délicat. Surtout comme ça, en plein air, avec cette acoustique. Où on entend tout, en fait.
Et oui, c'est ça.
Voilà, on ne peut pas se cacher avec son rond.
Parce qu'ailleurs, on peut se cacher sans
il y a je ne sais pas. Il y a des fois des acoustiques un peu plus réverbérées où on n'entend pas forcément tous les détails. Mais là, vraiment, c'est une gageure pour instrumental. Voilà.
Merci à vous, en tout cas, Thibaut, et aux membres du trio des musiciens du Louvre. Je vais présenter à notre public quelqu'un que les Aixois connaissent certainement. C'est Alain Perroux. Bonsoir.
Bonsoir.
Quand je dis qu'on vous connaît certainement, Alain, c'est qu'en fait, ça fait 2 jours que je suis à Aix-en-Provence. Je vais en coulisses ici à Alain Perroux. Je vais à une répétition générale. Il y a Alain Perroux. Je vais dans la rue en train de balader à Aix. Vous êtes encore là. Vous êtes partout. J'ai l'impression que vous êtes roupie à Aix-en-Provence. Et vous êtes plusieurs personnes en une. Ou c'est vraiment vous qui faites
tout. C'est quelque chose de très schizophrène, effectivement. J'ai dû apprendre le don d'ubiquité depuis que je travaille à Aix en tant que conseiller artistique et dramaturge. Donc déjà double casquette. Et puis ça veut dire être présent aux répétitions. Et en même temps faire des présentations, des conférences, etc. Et puis suivre les activités de l'académie, évidemment les spectacles en gestation et aller aux premières.
Et puis suivre les chanteurs et les chanteuses tout le temps. Ils vous connaissent bien tous et ils vous respectent énormément d'ailleurs pour en avoir parlé avec eux. J'ai l'impression que vous avez un rapport de proximité avec eux qui est très très fort.
Je pense qu'à la base j'aime beaucoup les chanteurs et j'aime l'opéra et donc j'aime les chanteurs forcément. Mais c'est un amour qui n'est point aveugle, comme il me revient aussi de participer justement à ce processus de distribution dont parlait Andrea tout à l'heure, Andrea Marcon, où je suis un peu là, j'essaie de faire en sorte que chacun s'y retrouve, à la fois le chef d'orchestre, le metteur en scène, à Aix-en-Provence pour nos standards, le public évidemment, enfin trouver les meilleures solutions possibles. Ça amène à devoir être toujours au courant de... Déjà d'être très au clair avec les jeunes chanteurs, les voir se développer, imaginer ce qu'ils pourraient faire dans 1, 2, 3 ans, etc. Travailler aussi avec les chanteurs beaucoup plus confirmés, voir comment ils évoluent, comment leur répertoire évolue, etc. etc.
Il fait des gestes de mouvance comme ça, parce que c'est ça une carrière de chanteur aussi. Hein. Enfin, je veux dire, la vie de chanteur, de la voix, c'est quelque chose qui change tout le temps, donc il faut s'adapter.
C'est de l'humain, c'est du muscle, c'est aussi c'est de la psychologie, c'est des émotions, donc forcément, c'est quelque chose qui évolue avec le temps.
Ouais. On va parler peut-être un petit peu avec vous, Alain, de l'Académie, parce que c'est une chose qui est fondamentale et qui a pris vraiment de l'ampleur à Aix-en-Provence ces dernières années, en particulier dans le fait que ça permet, cette Académie, rappelons-le, non seulement de mettre en avant de jeunes chanteurs, mais peut-être de les travailler aussi et de faire d'eux, en quelque sorte, des professionnels.
Oui, l'Académie a été fondée par Stéphane Hissert en 1998 et elle n'a cessé de se développer. Et aujourd'hui, je crois que surtout ces dernières années, elle a pris une ampleur tout à fait inhabituelle parce que non seulement on s'adresse à des jeunes chanteurs qui viennent du monde entier et qui sont invités à des résidences sur différentes thématiques. Chaque année, il y a une résidence Mozart, donc deux semaines où ils reçoivent un enseignement, des masterclass, mais ils donnent aussi des concerts, ils font un travail scénique, etc. Donc on a plusieurs résidences cette année. Il y a non seulement Mozart, mais aussi Rossini et puis aussi une résidence de Lied Schubertien mené par Mathias Gurney, puisqu'il est là pour aussi un voyage d'hiver qui devient une œuvre d'art total avec William Kentridge, le plasticien. Donc il y a d'une part les chanteurs, mais aussi il y a une résidence de quatuor à cordes. Il y a aussi, et ça c'est très important, depuis quelques semaines, depuis quelques années, on travaille en proximité avec l'Orchestre des Jeunes de la Méditerranée, donc un orchestre de jeunes à Aix-en-Provence, et l'OJM a rejoint et rentré dans le giron du festival depuis quelques mois. Donc on donne maintenant, depuis plusieurs années, un grand concert donné dans plusieurs endroits, à commencer par Aix, à la fin du festival. Cette année, ce sera un concert dirigé par Alain Altinoglu. Et avec dans le programme, il y a notamment les quatre derniers leaders de Strauss, chantés par une chanteuse française, une jeune chanteuse mais qui a un potentiel énorme, Léa Trommenschlager, et qui avait participé à une résidence d'Académie de chant contemporain il y a quelques années.
Je m'en souviens, vous me l'aviez amené déjà au magazine en plus.
Absolument.
Bon, et Damien Passe, comment vous nous le présentez?
Damien Passe, voilà, un exemple. D'un ancien académicien qui est aussi un ancien de l'atelier lyrique de l'Opéra de Paris, donc ses structures d'insertion professionnelle. Et Damien, maintenant, la carrière se développe magnifiquement. Et ce qui est formidable, c'est qu'on essaie à Aix de créer aussi des fidélités, non seulement avec les plus grands chanteurs, les grands metteurs en scène et les grands chefs d'orchestre, mais aussi avec les jeunes. Et Damien, il sera notamment dans les Boréades en version de concert qu'on va donner le 18 juillet.
Avec Marc Minkowski, il va nous en parler dans un instant, Damien Passe, mais auparavant, on va l'entendre, c'est toujours Edwige Herschenröder qui est au piano, il va commencer par la cavatine d'Aleko, c'est évidemment Rachmaninov.
Thank you.
Damien Passe interprétait ici cette cavatine d'Aleko de Serge Rachmaninov accompagnée au piano par Hedwige Herschenröder. Bonsoir Damien.
Bonsoir.
Dites-nous, ça, je vous dis, un sacré coup là, parce que c'est Olga Peretiatko de Langrusse hein, qui est juste à côté, qui a
la
pu
star.
Vous entendre, non seulement la je star, mais en plus dans sa langue. Bonsoir Olga.
Bonsoir.
Je vous salue juste au passage, on va parler avec vous juste dans un instant, mais auparavant, Damien Passe, causons un petit peu de vous. On s'est rencontrés il y a combien de temps ? Un an ou deux, c'est ça déjà ?
Il y a 4 ans.
Il y a 4 ans déjà ?
Oui.
Ah oui, vous étiez déjà à l'Académie
le
en fait.
Oui, la première année pour l'Académie.
Ah, c'est ça.
Et je crois que j'ai chanté aussi.
Ah d'accord. Et vous êtes revenu tous les ans ? Tous les ans, Aix-en-Provence ?
Tous les ans, oui. La famille d'Aix, comme Alain a dit, ils sont très loyaux. Et...
C'est ça, très fidèles.
Exact.
On vous accueille et puis on vous garde longtemps. Enfin, quand on tombe sur des gens de qualité.
Bah, je suis très content de venir, vraiment.
Alors le spectacle, on pourra vous voir, ce sera un opéra en version de concert le 18 juillet, ici même Aix-en-Provence. Donc, Les Boréades de Jean-Philippe Rameau, dirigé par Marc Minkowski. Il y a une très belle distribution là-dedans encore. Et vous faites, vous, le rôle de Boré.
Boré.
C'est qui, Boré ?
Ben, c'est le dieu des vents.
Ah d'accord.
Le méchant. Je suis souvent le méchant.
Pourquoi vous êtes le méchant ?
Ben, je sais pas.
C'est la yeux, voix. Hein.
C'est la voix un peu grave.
Non, c'est la voix qui fait ça. Les barytons basses sont rarement des gens très gentils.
Bah, je suis gentil dans les coulisses.
D'accord, c'est ça, oui, oui. C'est quand vous arrivez sur scène que vous devenez ce que vous êtes vraiment. Ce que vous faites aussi cette année, parce que vous allez faire dans quelques jours, c'est une résidence avec Walter Hautmeier. Et alors ça, c'est à la fois très émouvant et on imagine pour vous un sacré moment à vivre.
Ah oui, j'ai un peu de trac, mais je suis très excité de travailler avec elle parce qu'elle a chanté partout et merveilleusement. et aussi d'explorer ce côté de le lien entre chanteur et metteur en scène, parce que c'est tout lié à Patrice Chéreau et comme elle a développé les rôles avec lui. Donc ça va être
travail,
super, je ne sais pas exactement ce qu'on va faire, mais je crois que ça va être intéressant.
C'est-à-dire qu'une chanteuse, Walter Rottmeyer, et pas n'importe laquelle, va vous transmettre quelque chose de la mise en scène de Patrice Chéreau, de cet esprit, c'est ça?
Oui,
c'est l'idée générale de cette résidence.
On va prendre les risques, on va fermer les portes et on va juste explorer ensemble.
D'accord.
Les séances d'improvisation et de vraiment explorer le texte et comment on peut communiquer le plus efficace possible, je crois, avec un public.
Ouais. C'est un sacré truc, hein, parce que c'est une grande personnalité déjà, Walter Rottmeyer, indépendamment de Patrice Chéreau même. Hein.
Complètement.
Vous aviez vu Electra l'an dernier?
Ah oui, deux fois.
C'est vrai.
Deux fois, je suis toujours un peu dedans.
Ah oui, on imagine. Bon, très bien. Et puis sinon, si on doit aller un petit peu plus loin dans l'actualité, Damien Passe, Opéralia, vous allez à Los Angeles au mois d'août.
Oui, exact, avec Domingo. Hein? Qui va diriger quelques airs d'opéra, et on verra. Je suis le seul
pour Australie. Vous passez le concours,
c'est
ça? Comment? Vous passez le concours, Opéralia?
Oui, exact. Donc, on est 30 chanteurs invités, je crois.
D'accord. Et vous me disiez, vous êtes le seul Australien. Donc.
Le seul Australien.
C'est vrai qu'il n'y a pas tant que ça.
Et j'y vais pour France aussi, si vous voulez.
Ah oui, bah oui.
Donc, on verra comment ça va se passer.
De toute façon, double nationalité. C'est vrai qu'il n'y a pas tant de chanteurs australiens que ça, en fait. Ou simplement, on ne les voit pas en France, ils passent dans le circuit.
Je ne sais pas, jamais, parce que j'ai fait mes études aux États-Unis. Mm-hmm. Et puis, je suis venu en France juste après.
D'accord.
Donc, en fait, quand j'y vais, c'est pour Noël. C'est pour, en fait, je ne chante pas en Australie.
Ah ouais.
Vraiment, je suis avec ma mère et quelques semaines. Et puis, je reviens en France. Et, mais un jour,
vous
on a une belle maison d'opéra.
Bah oui, à Sydney, un jour. Énorme. Oui, oui. Vous y allez souvent, l'opéra de Sydney, d'ailleurs. Vous y êtes déjà allé?
Non, une fois quand j'avais 16 ans.
Donc c'est lointain.
Et dans mes
ça.
Souvenirs, c'était bien.
Ah, oui, je comprends, c'est pas mal. En tout cas, extérieurement, c'est un très très bel opéra. Merci, Damien Passe. On vous Merci. Retrouvera tout à l'heure. Vous nous ferez en fin de programme un petit massenet de derrière les fagots. Assez drôle, vous verrez ça tout à l'heure. Restez à l'écoute, bien évidemment. Je vous rappelle que nous sommes toujours dans la cour de l'hôtel Meynier d'Oppède, Aix-en-Provence. Et en face de moi, donc, Olga Peretiatko. Bonjour à vous. Je n'avais pas prévu de vous faire venir au départ. Je vous le signale parce que tout simplement, vous ne parlez pas français. C'est plus difficile en direct, ou en tout cas sur des émissions publiques. Vous êtes tellement formidable. Dans le spectacle, non mais vraiment incroyable, hein, dans le Turc en italique, on s'est dit il faut la faire venir absolument. Alors votre personnage c'est Fiorilla, qui est un personnage de femme très piquante, qui aime les hommes, mais qui est un petit peu dure avec eux.
Alors, avec cette phrase, bonjour tout le monde, mon français est fini.
Oui, pas encore bien commencé.
Je parle un petit peu parce que je parle italien, mais je n'ai pas essayé pour interview.
D'accord.
Excusez-moi.
Il n'y a pas de problème.
So, Fiorilla. Fiorilla is a young woman. She loves.
Elle est une jeune femme qui rigole beaucoup.
She likes this life. She loves to live. And she has a lot of lovers.
Elle aime beaucoup sa vie et elle aime beaucoup d'amants.
And for me, it's actually the first woman character in the opera history really feministical.
Et pour moi, dans l'histoire de l'opéra, c'est le premier personnage féministe qu'il existe dans l'histoire.
Exactement. Uh-huh. And she sometimes she told some phrases like, for example, I don't want to have two lovers. I don't want to have this lover who is between two women. So I should be only one. It's normally what the man says.
Et parfois, elle a des comportements qui fait que, par exemple, elle refuse d'être avec un homme qui a deux femmes, alors qu'à l'inverse, en règle générale, c'est plutôt l'homme.
Elle est injuste.
And think about it. It was written more than 100 years ago. So it's really revolutionary.
Alors, et c'est révolutionnaire parce que ça a été écrit il y a plus d'un siècle.
And of course, there is no happy end. There is no. Normally, I am dying at the end of the opera. Normally.
Il n'y a pas de mort à la fin de l'opéra comme d'habitude.
Normally, you are going mad and then you will die.
D'habitude, tu deviens fou et puis tu meurs.
Surtout dans les rôles d'Olga.
Yeah. And this opera has happy end, you know, but it's not really happy end. It's really bitter happy end.
Et cet opéra a une fin presque joyeuse, en tout cas cela essaie.
It's not opera buffa, it's not opera seria, it's something in between.
C'est pas un opéra bouffe, c'est pas un opéra seria, c'est entre les deux.
complexe.
Et voilà. Mais en tout cas, il y a beaucoup de choses à faire pour vous, Olga, puisque vous faites beaucoup de choses sur scène. Vous êtes très vivante, vous portez des perruques blondes, oui. Puis des perruques brunes, et puis vous changez de masque et de costume tout le temps. C'est ça, trois perruques. C'est très amusant à faire. Ah bah oui, j'imagine.
J'adore cette design. I love this costume design. And we created something very special, this very strong character, this woman character.
J'adore la personne qui a créé les costumes de cet opéra et qui a rendu le caractère encore plus fort.
Ah ouais. Est-ce que les costumes vous inspirent quelque chose aussi, pas seulement la musique?
You know, I have a lot of fun in this opera. Have you seen? And for me, it was really... it's not a coquette. For me, the Fiorillo is not a coquette. It's just a... it's not enough to be one only coquette. Or I told in one interview, then I thought no, maybe I should not say this. Mignotte in Italiano. In Italian, it's like a, something like prostitute, yeah? But she's not.
Ce n'est pas de la coquetterie que de le dire, mais il est vrai que les habits viennent vraiment travailler sur le caractère. Et pour cela, ce n'est pas d'une vulgarité excessive pour autant.
Absolument. This mésalliance between this relationship between Don Geronio, who is really very old.
La différence dans la relation avec Don Gerona, qui est très âgé,
et qui est son mari.
Mon mari. And for me, as a for young woman, it's not enough. So that's why Fiorillo tries to find some ways.
Pour la jeune femme que je suis, ce n'est pas assez. Et donc, je cherche des moyens de m'en sortir autrement.
At the end, she understands that is not a right way, maybe.
Et à la fin, elle comprend que ce n'était pas la meilleure manière de faire.
Yeah, but it's like Così fan tutte by Mozart. Yeah. It's beautiful, but it's not funny at all.
C'est un peu comme Così fan tutti de Mozart. C'est drôle, mais enfin c'est beau, mais ce n'est pas drôle pour autant.
Absolutely. And if it's happened in your life, you will be not laughing.
Et si ça vous arrive à vous-même, vous ne rigolerez pas.
On ne voit pas qu'il nous arrive des choses comme dans le Turc en Italie. En tout cas, vous êtes formidable là-dedans. Bravo donc, Olga Peretiatko.
Merci bien.
Merci d'être venu nous dire quelques mots. Je vous présente le quatuor que nous allons pouvoir entendre à présent. C'est le quatuor Tana. Ils viennent de s'installer. Alors, ils sont formidables aussi, mais pour tout un tas de raisons qu'on verra tout à l'heure. D'abord parce qu'ils ont un répertoire très méconnu. Ensuite, parce qu'ils jouent façon à l'électronique, le quatuor Tana, dans un extrait, le troisième mouvement du premier quatuor d'un certain Robert Durand.
Thank you.
C'était un extrait du premier quatuor de Robert Durand. Vous en saurez plus sur lui dans quelques instants. Les interprètes, le quatuor Tana, c'est-à-dire Antoine Maison-Haute et Peter Janssen au violon, à l'alto Maxime Désert au violoncelle, Jeanne Maison-Haute, et c'est Antoine, le premier violon, qui vient nous causer. Bonsoir Antoine Maison-Haute.
Bonsoir.
Dites-moi tout d'abord, on va parler peut-être de l'œuvre qu'on vient d'entendre, qui est très étonnante. J'écoute ça comme ça, je ne sais pas d'où ça vient, je ne sais pas de quand ça date. Alors vous me dites, c'est Robert Durand, qui est-il et quel est ce premier quatuor?
Alors Robert Durand, c'est un compositeur haïtien et cette œuvre date de 1946.
D'accord.
Et il a composé ce quatuor en hommage au quatuor américain de Dvorak. Alors dans les autres mouvements, il y a des citations effectivement du quatuor, assez peu dans ce mouvement-là. Et ce mouvement en fait, est basé sur une danse de son île qu'on appelle la meringue. On ne mange pas, mais qui se joue un peu plus vite. Alors lui, il est un peu adapté pour faire un mouvement lent dans le quatuor. Mais voilà, c'est une pièce qui a eu énormément de succès à son époque, a été jouée plus de 250 fois. Donc en fait, c'était
Haïti essentiellement. C'est
Haïti et partout dans le monde, voilà, parce qu'il était d'une famille de musiciens et il jouait en famille. Voilà.
Si je ne le connais pas, j'ai tort ou non? Il est complètement passé.
Il est complètement inconnu. Pour trouver les partitions, ça a été un parcours du combattant et on les a trouvées à Montréal, parce que la société des auteurs haïtiens est basée à Montréal aujourd'hui. Voilà.
La musique de Robert Durand, donc si on veut, il faut aller sur Internet. Et voilà, j'ai l'impression que vous allez facilement sur Internet, puisque vous n'aviez pas de partition, mais. Non. Des iPads.
On avait des iPads et donc on a eu ces partitions-là. Elles ont été faites en PDF pour nous à la demande au moment du concert parce qu'elles n'existent pas en fait. Voilà, elles ont été recréées pour nous. En fait.
D'accord. Voilà. Bon, et alors comment vous faites sur l'iPad? Parce que ça me surprend quand même.
Alors sur l'iPad, en fait, c'est finalement assez simple. On reçoit ou on scanne les partitions et dessus il y a une application sur laquelle on peut tout annoter. Tous les sigles musicaux existent et en fait on tourne avec les pieds.
D'accord.
Voilà.
Vous avez une espèce de petit machin aux
pédales. Des petites pédales MIDI, toutes simples, qu'on trouve dans le commerce. Et on tourne avec les pieds, avant et retour, pour quand il y a des da capo, dans les œuvres plus classiques.
Par exemple. Permet d'éviter les tours de deux pages, qui sont toujours un vrai problème.
Exactement, ça évite les montages fastidieux, surtout en musique contemporaine, qu'on défend beaucoup. On est parfois obligé d'avoir des montages assez. Pas très esthétique sur scène et on a voulu éviter ça aussi, ça fait partie d'un tout esthétique.
En fait c'est assez simple, on se demande pas pourquoi les musiciens d'orchestre ne systématisent pas ça. Certains font, je crois, certains orchestres.
Il y a eu quelques essais d'orchestre, effectivement, après peut-être la difficulté, je sais pas, dans le nombre, effectivement c'est assez surprenant que ça n'existe pas. Aux États-Unis c'est beaucoup plus courant qu'en Europe, mais il y a pas mal de solistes qui s'y mettent aussi. Red Chen par exemple, le violoniste en finale du Reine Elisabeth, avait joué l'imposé contemporain sur son iPad.
Il avait gagné pour autant,
et il a gagné le concours, mais je pense pas que ça soit à cause de l'iPad, ceci dit.
Ça suffit pas pour bien jouer l'iPad, il faut quand même son instrument. Le quatuor Tana existe depuis 2010, il y a deux maisons hautes dedans.
C'est ma sœur, c'est Jeanne, c'est ma petite sœur.
Vous êtes les deux piliers du quatuor?
Oui, c'est-à-dire qu'évidemment, on joue ensemble depuis très longtemps. On faisait des duos chez les parents. Enfin, ça fait longtemps qu'on s'amuse ensemble. Et donc, c'est vrai que ça fait. C'est magnifique de pouvoir jouer en famille. C'est une chance.
Vous connaissez bien, je crois, l'invité qui est venu s'asseoir là, Benjamin Dupé.
Et oui, on se connaît depuis l'année dernière ici à Aix. On s'est rencontrés ici. Et on a un très, très beau projet, qui est le projet de Benjamin, qui va venir, qu'on va travailler et mettre en place ensemble et qu'on créera au Phoenix à Valenciennes en octobre prochain.
Alors, c'est pas de ça dont il va nous parler. Benjamin Dupé, bonsoir.
Bonsoir.
Mais d'un spectacle intitulé Fantôme, un léger roulement et sur la peau tendue qu'est notre tympan.
Bravo.
Non, mais c'est parce que je l'ai sous les yeux, je l'ai pas réinventer. D'où vous vient cette phrase?
Ah, mais c'est en fait une des premières idées que j'avais en travaillant à cette création sur ce projet, c'était de questionner la place de l'auditeur et du spectateur par rapport à la musique. Et en fait, je voulais mettre l'auditeur non pas face à la musique, face à un concert, mais à l'intérieur de la musique, presque à l'intérieur de l'instrument. Et ceux qui ont la chance de pratiquer la musique de chambre ou le chant choral ou l'orchestre savent que c'est pas du tout la même sensation que d'être dans la musique et non pas face à. Et du coup, par rapport à cette idée-là, j'ai collaboré avec un scénographe qui a construit un dispositif particulier qui comporte 50 places pour les spectateurs. Ouais. Les spectateurs sont, ou les auditeurs, sont semi-allongés ou assis ou au sol sur des coussins. C'est très confortable. Ils se font face sur deux niveaux, quatre côtés. Et l'ensemble de la musique est joué par plus d'une soixantaine de petits instruments mécaniques, 18 points de diffusion électroacoustique, donc des haut-parleurs.
Des instruments mécaniques, pardon, quoi, des pianos tels qu'on les connaît, mécaniques
Non, alors justement, je ne voulais pas travailler dans la tradition américaine de la musique mécanique. mécanique consiste à prendre un instrument traditionnel et puis à inventer des bras articulés qui permettent de faire bouger l'archet sur les cordes. Là, il s'agit de dispositifs qui ont été conçus sur mesure et qui produisent des sons qui ne sont pas des sons traditionnels. D'accord. Par exemple, des écoulements de grains, des cailloux qui roulent, des papiers qui se froissent, du métal qui se met en vibration, des coquillages qui rebondissent, des gouttes d'eau qui tombent.
Rien que donc, comme ça, c'est poétique. Hein. Je ne sais pas le résultat, mais rien que dit comme ça.
Oui, non, mais si, le résultat aussi.
Ah bah, j'imagine.
Et voilà. Et du coup, je vais finir par expliquer ce titre.
Oui,
mais
oui,
voilà,
oui.
Je n'ai pas oublié la question. Mais du coup, c'est vrai que c'est vraiment une expérience pour le spectateur, parce qu'il est immergé dans la musique et qu'il est immergé à l'intérieur d'un monde sonore qui se met en mouvement tout seul, de manière magique. Du coup, cette idée du fantôme, voilà, elle vient de là. C'est que les auditeurs sont ensemble, ils sont dans la musique, mais ils font face à une absence flagrante, qui est celle du musicien,
et oui,
de musicien
et du corps du musicien aussi.
Et du corps du musicien. Les spectateurs sont en fait avec leur corps et avec le corps des autres spectateurs qu'ils voient, du coin de l'œil ou en face. Et voilà, cette idée de fantôme, elle vient de là. L'idée du léger roulement, j'en ai parlé en parlant des instruments, c'est un travail esthétique que j'ai envie de faire. Même si on fait de la musique contemporaine, est-ce qu'on peut travailler sur la douceur, sur l'intime, sur l'effleuré, sur le caressant, sur l'envoûtant ?
Vous voulez dire que la contemporaine, c'est pas seulement l'intime ?
Eh bien, pas forcément tout le temps, mais en tout cas, c'est intéressant de se poser cette question et de s'y confronter. Voilà, je ne sais pas si le résultat est réussi de ce point de vue-là, mais en tout cas, c'était une direction de travail importante. Et l'idée de la peau tendue qui est notre tympan, je boucle la boucle puisque je reviens au spectateur. Je considère que le spectateur et l'auditeur est une sorte de caisse de résonance de la musique et que son tympan est comme une peau tendue sur un tambour qui va se mettre en résonance et en vibration avec.
Pratiquement,
avec
d'ailleurs, c'est une peau tendue d'ailleurs.
C'est tout à fait, voilà, physiologiquement, c'est ça, ouais.
D'accord, bah, écoutez, ça fait envie en tout cas. Ça dure une heure, c'est ça ?
Ça dure une heure, exactement.
Une petite heure, on est une cinquantaine de personnes, comme ça, c'est trois fois par jour au Bois de l'Aune. C'est où ça, le Bois de l'Aune ?
Alors, le Bois de l'Aune, c'est un théâtre qui est un tout petit peu à l'extérieur du centre-ville, dans le quartier Jazz de Bouffant. Et c'est une très belle salle. Je suis d'autant plus content qu'on soit installé là-bas depuis le 25 juin, parce que c'est un endroit aussi de rencontre et de croisement des publics. C'est-à-dire qu'il y a le public du Festival Aix-en-Juin, le public du Festival d'Aix qui commence, et il y a aussi tout le public du quartier du Bois de l'Aune, sur lequel le théâtre fait un vrai travail en amenant des groupes qui ont été préparés, des habitants du quartier. Et à chaque représentation, moi qui suis caché dans une régie invisible, voilà, j'assiste à des petites sociétés qui se recomposent et qui ne se rencontreraient pas forcément ailleurs. Je trouve ça très, très agréable.
Enfin, je remarque que depuis le GRM, on a fait des progrès dans la spatialisation du son. Hein. C'est-à-dire que ça devient poétiquement chargé chez vous, parce que ce n'était pas toujours avant. Au Bois de l'Aune, donc, tous les jours jusqu'à samedi, trois fois par jour, 14h30, 18h, 20h ou à peu de choses près. On va se renseigner auprès du festival si on a envie d'y aller. Ça a l'air en tout cas pas mal. Vous êtes allé faire un tour là-bas, Antoine ?
On y va demain.
Vous y allez demain,
on a réservé nos places demain, voilà. On est très curieux.
Et votre concert à vous, je le signale, ce sera dans le cadre des lauréats HSBC 2013. Racontez-moi juste en deux mots, en fait. Vous avez été lauréat et maintenant vous êtes...
On revient cette année en tant que lauréat. C'est-à-dire qu'on a participé à l'Académie européenne de musique l'année dernière avec les masterclass, voilà. Et cette année, bah, du coup, on a la chance de revenir faire un concert le 5 et puis des concerts en région aussi. Voilà.
Donc, alors, ce sera pour le concert le 5 à midi à l'auditorium du Conservatoire Darius Milhaud, ça c'est Aix-en-Provence.
Exactement.
Et puis vous ferez le tour aussi de la région.
Exactement.
Hein, avec vos concerts. Et au programme Chausson Barbeur d'Adamo pas le Durand qu'on a eu là.
Non, pas du tout le Durand. Non, on défend le quatuor de Daniel d'Adamo qu'il a composé pour nous en 2013 aussi, du coup. Et voilà, comme on défend beaucoup le répertoire contemporain, on ne pouvait pas ne pas jouer du contemporain.
À cette occasion.
Voilà, évidemment.
J'allais lancer Damien Passe, mais j'entends un truc au-dessus de moi qui ressemble vaguement à un avion. Donc on va attendre juste quelques instants. Nous, on l'entend de loin, comme ça va, Damien, on peut y aller ? Oh, ouais, il me dit qu'on peut y aller. Alors ce sera le dernier passage et le dernier extrait musical de ce magazine à Aix en Provence. Damien Passe avec Edwige Herschenroder qui vont nous interpréter ici la scène du diable d'un opéra de Massenet dont je ne me souviens même plus. Il nous racontera ça juste dans un instant. Il y a une sale morale à la fin, surtout vous n'écoutez pas, vous bouchez vos oreilles.
Jusqu'ici sans danger, j'ai pu vivre invisible au fond de ces vergers et parfumer mon âme au fond. fleurs des orangers, cueillir des fleurs, avoir des papillons pour proie, idyllique plaisir, iridescente joie. Quel sort adorable est le mien? Loin de sa femme qu'on est bien, il n'est qu'un bonheur sur mon âme, et tous les autres font pitié, c'est vivre loin de sa moitié. On est si bien loin de sa femme, l'absence est le suprême bien, loin de sa femme qu'on est bien, aucun souci ne vous réclame. On est si bien loin de sa femme, ni bris, ni jaloux entretient, ni de querelle pour rien, et le temps passe comme un rêve. Comme un rêve. Loin de sa femme qu'on est bien, quel bon compagnon que soi-même. On s'accorde toujours, on s'aime pour deux, on s'aime pour deux. Je vous le dis, c'est le vrai paradis, le paradis. En vérité, je vous le dis, l'absence est le bonheur suprême. Qu'un bonheur sur mon âme, et tous les autres font pitié, c'est vivre loin de sa moitié, qu'on est bien loin de sa femme. Ah, qu'on est bien, qu'on est bien, qu'on est bien. Loin de sa femme.
Nous entendions Damien Passe et Edwige Herschenroder dans cette scène du Diable de Massenet. Extrait de quel opéra, Damien ?
Grésilidis.
Ah, c'est ça, voilà, je ne me souvenais plus.
Oui, je l'ai découvert avec Guillaume Tournier, ouais. Parce qu'on a fait un concert pour l'année Massenet il y a 2 ans. Et en fait, je ne suis pas complètement fan de Massenet.
Ah bon ?
Il m'a convaincu avec ce morceau. Il m'a dit, Damien, c'est vraiment pour toi, c'est un diable, mais il est un peu rigolo et... Et en fait, c'est un diable, comme on a dit tout à l'heure, un diable gentil.
Un diable gentil,
en fait,
dans
c'est
le
sa femme qui est la méchante.
Ah, c'est ça?
Oui.
C'est souvent comme
c'est
ça,
un poète,
vous savez.
Il adore sentir les fleurs et raconter les histoires. Et toujours sa femme qui lui fait...
La morale.
Oui, exact.
D'accord. Du coup, il nous dit, loin de sa femme, qu'est-ce qu'on est bien. Oui, c'est pas une leçon à mettre entre toutes les mains. Hein. Il faut se méfier de ça.
Bah, oui.
Oui.
C'est pour ça que je l'ai chanté, pour les gens qui...
D'ailleurs, qui ont beaucoup souri, comme si certains s'y retrouvaient un peu. Même les femmes ont souri, donc on n'a rien dit là-dessus. Merci Damien, on va rappeler que vous serez donc à Péralière. Vous souhaite beaucoup de chance pour ce grand concours Domingo. Hein. Vous le connaissez d'ailleurs, Domingo, déjà, ou ce sera l'occasion de le rencontrer?
Non, pas encore. Ah, j'ai hâte. D'abord Waltraud et puis Domingo.
Ah ouais.
Je fais les grands chanteurs.
Ça fait de belles rencontres cette année.
Oui.
Hein. C'est une très grande année. Et vous d'ailleurs, je ne vous ai même pas demandé tout à l'heure vos prochains engagements après Aix, au Péralière et tout ça. Il y a d'autres choses plus loin?
À Paris, je fais Faust à Bastille. Je vais chanter Wagner.
Très bien.
Et puis Le Chasseur dans Rosolka, à Bastille aussi. Quelques récitals. Et en fait, J'ai un peu
et c'est
un...
déjà beaucoup. Hein.
Ouais.
Il ne se souvient pas de tout, mais ça, je comprends.
Et à Don Giovanni, à Wuppertal, en Allemagne.
Très bien. Ben, merci à vous, en tout cas, d'être venu nous voir. On va refermer cette émission à Aix-en-Provence définitivement. On va remercier, bien sûr, Mathieu Leroy, Mathieu Tourin, Adrien Gaza, Richard Géraldo, Roland Dandalex, les équipes de Radio France. Un grand salut à Floriane Barny, Christine Delterme, Valérie Veil. On va rappeler que cette émission est, comme toujours, préparée par Nicolas Lafitte et réalisée par Antoine Courtin. Et on va remercier aussi notre public qui est venu nous voir nombreux. Merci à vous. Il est 13h37 sur France Musique. Nous retrouvons Clément Rochefort pour les Dépêches Notes.